Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Histoire de Dubaï, le premier podcast français sur Dubaï. Lorsqu'en septembre 2019, nous avons eu l'opportunité avec mon mari de nous installer à Dubaï, je ne suis presque tombée que sur des reportages montrant le luxe et la démesure de cet émirat. J'ai également tout de suite été confrontée à tous les clichés que l'on peut avoir sur cette cité-état. Bling bling, 50 degrés toute l'année, aucune nature, rien à voir à part les malls, voile obligatoire et j'en passe. J'ai donc envie aujourd'hui de montrer une autre image de Dubaï, celle des Français qui entreprennent. Avec l'exposition universelle 2020 ou encore le musée du futur dont l'accent est mis sur l'innovation autour des défis du changement climatique, j'ai le pressentiment que Dubaï a encore de belles années devant elle. Et grâce à mes invités, j'ai envie de vous donner les clés pour qu'à votre tour, vous puissiez tenter votre chance. Je m'appelle Laura Pouliken et je suis également fondatrice du podcast L'Aléa sur la prise de risque et auteur du site lowfromparis.com. Si vous voulez en savoir plus sur Dubaï, je vous invite à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram à lowfromparis. Et si le podcast vous aide rien qu'un peu, n'hésitez pas à en parler à vos amis, votre famille, à le noter et à le commenter. Petite news, pour les passionnés de podcasts et ceux qui rêveraient de créer le leur, j'ai créé la formation dont j'aurais rêvé avant de me lancer. Au programme, comment créer votre podcast et votre identité de marque de zéro au lancement. Aujourd'hui, je suis avec Oriane, la créatrice de Yala Kids. Je suis ravie d'être chez toi aujourd'hui dans ton superbe appartement, après avoir visité ton petit atelier et tout, et vu tous les vêtements pour enfants qui donnent envie. Est-ce que tu peux tout d'abord commencer par te présenter ?
Alors, je m'appelle Oriane, je suis française et je viens de Paris, du 6e arrondissement.
D'accord.
Voilà, où j'ai grandi et fait mes études. Et je suis partie d'abord au Danemark après mes études, travailler pendant 4 ans. Puis, je suis revenue en France, repartie en Belgique et j'ai atterri à Dubaï en 2010.
D'accord. Voilà. Tu étais dans quel domaine
Alors, à la base, je suis chimiste. Donc, j'ai fait l'école des parfums à Versailles. Pas à Dubaï, à Versailles. Et donc, j'ai un master en formulation parfum et arômes. Et j'ai travaillé donc dans des labos pendant 12 ans, dans des grandes boîtes internationales pour formuler des parfums et arômes pour l'agroalimentaire, les bougies, l'industrie. Voilà. Donc, rien à voir avec la Kids.
D'accord. En effet, absolument rien à voir. Donc, il y a combien de temps et dans quel contexte tu es arrivée à Dubaï ?
Alors, je suis venue à Dubaï tout d'abord en 2010 pour le travail. Et parce que je venais pour des salons, voilà, pour le Gold Food dans le cadre de mon travail ou au Danemark ou à Paris. Et j'ai rencontré mon mari en fait en 2010. Et c'est pour lui que je suis revenue parce qu'il est dubaïote. Voilà.
Okay. Et donc les premières années, quand tu es revenue à Dubaï, qu'est-ce que tu as fait ?
Alors j'ai fait les allers-retours pendant 3 ans. En 2013, j'ai décidé du coup de quitter mon boulot en Europe. J'ai pris un an de congé sabbatique où j'ai voyagé, on s'est marié, on a eu notre première fille en 2014. Et en fin 2014, j'ai été rappelée par une boîte à Dubaï, pareil dans les parfums et arômes, pour travailler. Et j'ai travaillé pour eux pendant 4 ans. Voilà, donc c'était à Jebel Ali dans la Free Zone.
D'accord.
Pareil, donc tout ce que je savais faire, formulation de parfums et arômes, surtout pour le marché iranien.
Ouais.
Le marché local, voilà. Et j'ai eu ma deuxième fille en 2015, toujours en travaillant là-bas, donc j'avais pris un très court congé maternité. Et en 2018, quand j'étais enceinte de ma troisième fille, mon labo a fermé en fait.
Ah.
Ouais. Ils ont gardé l'activité trading, mais le labo a fermé pour diverses raisons. J'en ai profité pour réfléchir sur ce que je voulais faire après avec 3 petites de moins de 4 ans.
Voilà. Que... Et donc, ouais. La réflexion ouais, t'a
et donc,
mené
on me proposait que des boulots de 9h à 18h avec des voyages au Moyen-Orient, au Pakistan, au Sri Lanka, donc quelque chose que c'est très difficile à faire avec 3 petites. Et j'avais eu cette idée derrière la tête depuis quand même, depuis la naissance de ma première fille, donc ça date quand même de 2014-2015. Parce que j'arrêtais pas dès que j'étais en France, je faisais tous les sites de seconde main pour chercher des petits habits
sympas.
C'est pareil, voilà.
Dès que j'arrive en France, je commande sur Vinted.
Voilà, il y a Vinted et il y a des sites comme Il était plusieurs fois de filou en filou, mille envies. Il y a plusieurs sites en France, hein. C'est quand même bien implanté. Il y a aussi Salopette et Petit Col, plein de petits sites où j'allais chercher toutes les habits pour mes filles et je rentrais avec les valises pleines. Et les soldes, et voilà. Mais j'en avais un petit peu marre de à chaque fois ramener les habits pour mes filles. Voilà. Il n'y avait pas de boîte de seconde main ici. Avec un site internet, parce que je travaillais full-time, j'avais pas le temps d'aller dans les malls, d'aller dans les ventes, voilà, je voulais quelque chose d'en ligne, où les habits seraient livrés chez moi, et je pouvais faire confiance à la qualité, c'était surtout ça, parce que, groupe Facebook, on trouve plein d'annonces, donc ça va quand c'est dans votre communauté, vous pouvez aller chercher, mais quand il faut traverser Dubaï pour trouver un manteau, parce que vous voyagez... c'était pas pratique, quoi. C'était pas possible. Et du coup, et on sait jamais, les photos, on voit pas vraiment la qualité réelle. Mais voilà. Et quand quelqu'un vous dit très bon état, ça veut pas dire la même chose pour tout le monde. Donc, les ventes de particulier à particulier, ça fonctionne très bien, mais on n'a pas vraiment de gage sur la qualité. Je trouve que, alors que justement, il me manquait un site où les gens avaient déjà vérifié les habits et je savais que je pouvais commander les yeux fermés, qu'il n'y aurait pas de tâches, pas de trous, qu'il n'y aurait pas de bouloges, que les habits seraient vraiment prêts à porter.
Voilà. Génial. Et donc, comment tu es passée de l'idée à l'action ?
Alors, l'idée à l'action, parce que, effectivement.
Quand on a l'idée, c'est super, mais parfois, on ne sait pas vraiment, surtout quand on n'est pas dans son pays, forcément. Bon, toi, ton mari est émirati, donc peut-être que ça a aidé, mais. Mais voilà, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé ?
Donc, de toute façon, j'étais déjà sur le visa de mon mari depuis des années. Donc, au niveau du visa, ça n'a pas créé de soucis où il a fallu que je me dise il faut que je crée une société pour avoir mon visa, etc. C'est vrai que le fait que c'est vraiment les hasards de la vie, hein, le fait que mon labo ferme quand j'étais enceinte de ma troisième. Ensuite, c'est vrai que moi, j'allaite mes enfants. Du coup, ça veut dire que pendant 8-9 mois, on est quand même un peu à la maison. Enfin, je retravaillais, mais je tirais mon lait au boulot. C'est vrai que c'est vraiment pas l'idéal. Donc, je me disais, j'aimerais vraiment faire quelque chose où je puisse être chez moi. Et c'est vrai que mon mari me poussait. Hein, vraiment, il m'a toujours encouragée en me disant, monte ton truc. Au pire, tu te casses la figure et ça marche pas. Au moins, t'auras essayé. Vu que t'es en congé maternité, ça vaut le coup d'essayer. Et j'ai pris une petite économie que j'avais en France, vraiment pas grand-chose, mais ça m'a permis d'aller acheter mon premier stock. Donc j'ai voulu essayer, voilà, vraiment comme ça. J'ai été acheter des habits aux quatre coins de Dubaï quand je voyais pas
chez
ça.
Chez des particuliers,
surtout via Facebook ou via des ventes de garage. Tu sais, tout le monde fait des ventes de garage et c'est vrai qu'il faut aller fouiller, hein, il faut sélectionner les habits minutieusement. Mmh. Mais j'avais commencé à monter mon premier stock. Et j'ai fait une première vente de jardin. Donc, dans mon jardin, c'était aux Springs. J'avais déjà pris une licence parce que via mon mari, on peut avoir des licences faciles d'accès. Et du coup, on avait fait une première vente dans mon jardin. Et je m'étais dit, on verra combien de personnes viennent. Si j'ai moins de tant de personnes, je pense que voilà, j'arrête ou je repartirai sur un boulot. Et en fait, j'ai eu plus que le nombre. Donc je m'étais dit, bon, c'est pas assez nul pour arrêter tout de suite. J'ai réessayé, j'ai continué à acheter des vêtements. J'ai vu que plein de gens en fait me disaient, non mais venez, moi mes armoires sont pleines. Je venais pour un truc, en fait. Je venais pour un maillot de bain Ralph Lauren, mais j'arrivais et la dame me disait, mais s'il vous plaît, prenez tout ce que vous voulez dans l'armoire. On négociait, en fait, un prix pour le lot. Et en fait, je voyais que je m'en tirais au niveau des marges et qu'il y avait moyen de faire quelque chose et qu'il y a beaucoup de gens qui postaient, en fait, s'il vous plaît, venez chercher.
Ouais,
donc, pendant un an, j'ai vraiment été chez les gens pour constituer mon stock. Et j'achetais les vêtements, en fait, avec ce petit pactole. Et j'ai eu mon matériel, j'ai fait faire des portants par un petit menuisier. Enfin, voilà, essayer de commencer vraiment avec pas grand-chose. Et j'ai refait une vente de jardin à Mirdiv. J'ai refait une vente de jardin aux Springs. Donc à chaque fois, en fait, je faisais automne, hiver, printemps, été. J'ai fait quelques marchés et après, je me suis dit que vraiment, j'avais cumulé en fait l'argent de ces ventes pour créer le site internet. Donc c'était vraiment le but, c'était qu'au bout de un an, je puisse monter mon site. Voilà, qui était à la base mon souhait. C'était pas vraiment de faire des ventes à la maison, c'était de vraiment créer le site.
D'accord. Et pourquoi Yala Kids, du coup, ce nom vient d'où ?
Alors, je voulais un nom qui soit à la fois en arabe et en anglais, parce que pour moi, c'est les deux langues de Dubaï qui parlent à tout le monde. Je voulais pas de nom français, parce que je ne vise pas forcément la communauté française, et ça peut parler à certaines personnes, mais la plupart des gens à Dubaï ne comprendront pas le sens du mot, en fait, c'est ça. Donc, je voulais vraiment un nom anglais et français. On a essayé plusieurs noms, d'abord avec mon mari, et à chaque fois, c'était pris, donc on pouvait pas déposer la marque, en fait. Et c'était plus dans le sens, allez les enfants, on y va, on va aux ventes, on va acheter des vêtements, ou, voilà. Et c'est pour ça que mon logo, il y a une maman qui traîne en fait sa fille et son garçon en courant, parce que c'est vrai que je vise vraiment les personnes aussi qui travaillent et qui n'ont pas le temps d'aller dans les magasins, et les mamans qui courent un peu tout le temps avec leurs enfants. Voilà, parce que le principe, c'est quand même de commander en ligne, par exemple à la pause déjeuner, et recevoir vos vêtements le lendemain chez vous. Voilà, vous avez déjà tout sélectionné. Et c'est vrai que Yalla, c'est vrai que c'est un mot qui parle à tout le monde. On n'a pas besoin
On retient vachement facilement.
Enfin, c'était le but, c'était que les gens puissent prononcer, sans parler en arabe forcément, mais voilà, kids. Bah, tout le monde sait ce que c'est que le kids, voilà, même s'ils ne parlent pas anglais. Ouais. Et Yalla, tout le monde sait ce que ça veut dire, même s'ils ne parlent pas arabe. Voilà. Donc c'était vraiment le but, c'était d'atteindre le plus de monde possible dans Dubaï.
Et donc, direct, tu t'es dit, je vais faire ça pour les enfants, ou t'as essayé, ou t'as voulu après
Le but, c'était vraiment de le faire pour les enfants.
Pour les
enfants. Parce que moi, c'est ce qui me plaît, je connais bien les marques enfants. Après, au niveau des adultes, je suis moins passionnée, on va dire. Mais c'était vraiment...
Puis les goûts sont peut-être un peu plus complexes.
Voilà, il y a tellement de nationalités différentes que pour les enfants, en fait, je vois que, par exemple, ma belle-famille, qui est émirienne, habille leurs enfants avec des marques western, enfin avec des marques occidentales. Alors que quand ils deviennent adultes, c'est vrai qu'ils portent plus des habits traditionnels ou des djellabia. Donc du coup, c'est vrai qu'au niveau des enfants, je pense qu'il y a toute la population des Émirats va porter... du Mother Care ou du Gap ou voilà, ce genre de marque qui plaît vraiment à tout le monde. Et j'avais quand même quelques habits adultes au départ, parce que j'avais visé les teenagers, les adolescents. Ouais. Et du coup, j'avais un peu de 34, 36, extra small, small, vraiment pour les ados de 15 ans, 16 ans, qui sont déjà à porter des habits adultes. Mais le style devait rester quand même ado. Donc ça marchait pas mal pendant les ventes de jardin. Et là, j'ai décidé de m'arrêter aux 14 ans, parce que depuis que j'ai monté le site, je vends vraiment jusqu'aux 14 ans, mais pas plus. Et comme j'ai ouvert un showroom ici chez moi, du coup, les enfants viennent avec leur maman, en fait. Donc je pense que passé un âge, les filles ou les garçons préfèrent aller à faire les courses avec leurs amis ou plus avec leur maman.
Ouais.
Donc du coup, c'est vrai que jusqu'aux 14 ans, ça marche bien, parce que les enfants ont à peu près 12 ans. Quand ils mettent du 14 ans, ils ont à peu près 12 ans. Et voilà, après c'est plus la peine, je pense que...
Et tes principaux clients, du coup, aujourd'hui, c'est majoritairement des Français ou...
Pas forcément, non. C'est vraiment des gens de partout, sauf des Indiens. Je n'en ai pas beaucoup, parce que je pense que dans leur culture, ce n'est pas vraiment... courant de mettre des habits de seconde main, où une dame m'a expliqué qu'en Inde, c'est vrai que c'était pas forcément très hygiénique, donc je peux comprendre qu'il y a des cultures où vraiment ça passe pas encore, et j'ai très peu de personnes aussi du Moyen-Orient et du Levant, pareil, parce que pour eux, en fait, ils ont une culture où ils donnent aux œuvres, en fait, aux œuvres caritatives, quand ils ont fini de porter les habits, ils les donnent, en fait. Ils n'ont vraiment pas la mentalité de porter des habits qui ont déjà été portés. D'accord. Moi, je vois dans ma famille, ma belle famille, je n'ai réussi à convaincre personne.
Ouais, ils se demandaient même pourquoi tu créais ça.
Ils ne comprennent pas mon concept. Ça, ils sont vraiment... Alors, ils m'ont toujours encouragée, hein, mais si tu as besoin d'aide ou si tu as besoin qu'on fasse quelque chose, voilà, pas de souci. Mais pour acheter, alors ils vont acheter des sacs à dos, des chaussures neuves dans la boîte, voilà, mais pas de vêtements. Ils veulent vraiment donner les vêtements. Même entre chaque enfant, ils ne réutilisent pas. Je vois qu'ils donnent vraiment.
D'accord.
Donc, mais par contre, des gens après de partout, donc des Américains, des Sud-Américains, Africains, Maghrébins, Asiatiques beaucoup.
Ah,
beaucoup d'Asiatiques, même Coréens, beaucoup d'Australiennes, Russes, toute l'Europe, alors pas de problème. Voilà. D'accord. Mais c'est juste, je pense, la communauté indienne, pakistani et arabe qui, ouais, qui n'est pas culturellement... voilà. Donc ça, c'est un défi. Tu me demandais pour mes défis, mais je pense que essayer de convaincre les gens, surtout les gens des Émirats quand même, mais là, je pense qu'il y a vraiment du chemin à faire.
Ouais. Ouais. Bah, c'est bien, c'est des challenges. Oui. qu'est-ce qui te tient à cœur tant dans ce concept de mode éco-responsable ? Alors bon, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est... De plus en plus, en fait, on est sensibilisé. Mais toi, qu'est-ce qui te tient à cœur ? Première question. Et deuxième question qui va avec, est-ce que, donc, avant, tu étais sensible à la question par rapport aux vêtements, mais par rapport aussi à ton mode de vie quand tu étais en France et puis tes premières années à Dubaï ?
En fait, moi, c'est au Danemark que j'ai commencé à avoir ce tilt éco-responsable, parce que c'est vrai que les pays scandinaves, je pense qu'ils sont vraiment en avant sur nous. Donc, ce qui fait que moi, je travaillais à peu près à 30 minutes de Copenhague à vélo. Donc, c'est-à-dire que les gens prenaient tous leur vélo pour aller au boulot. Donc, c'était 10 minutes en voiture, mais c'était 30 minutes à vélo. Mais tout le monde venait à vélo. C'était vraiment... ça coulait de source. C'était normal. Mais tu ne vas pas utiliser ta voiture. Mais c'est polluant. Mais, alors que moi, j'avais ma petite voiture Peugeot en arrivant de France. Voilà. Mais petit à petit, en fait, on se rend compte que oui, on peut très bien aller à vélo au boulot. On peut très bien essayer de pas du tout utiliser la voiture quand on est en agglomération. Et c'est vrai que bah, à Paris, on a l'habitude, on prend le métro, on prend les transports en commun. Mais j'avais moins ce déclic. J'étais encore très jeune aussi quand j'étais en France. Copenhague est plein de petits second-hand shops, vraiment, qui ont pignon sur rue, donc qui ont des petits magasins et qui sont des trouvailles à merveille, vraiment des cavernes d'Ali Baba.
Ah ouais.
Donc on trouve des habits vraiment pour soi. Enfin, à l'époque, j'avais pas d'enfant, donc c'est vrai que je dénichais vraiment des habits super sympas, un peu originaux. Voilà, donc c'est vraiment au Danemark que j'ai commencé. Ils ont des lessives sans parfum, des lessives naturelles, éco-responsables. Les couches, c'est pareil, ils utilisent énormément de couches lavables. Donc ça, j'ai découvert ça au Danemark. J'avais pas d'enfants, mais je voyais mes amis qui avaient des enfants ne mettaient pas de couches. Voilà, c'est vraiment un pays qui était très en avance déjà sur la France, je trouvais. Ouais, mais alors là, vis-à-vis de Dubaï, c'est des années-lumière. Et du coup, c'est vraiment là-bas que j'ai commencé à faire un peu attention sur ce que j'achetais et sur essayer de réutiliser. Pareil, on avait des bouteilles, tout le monde avait sa bouteille en verre pour boire au boulot. Personne n'avait des bouteilles en plastique là-bas, c'est vrai que... Et du coup, j'ai gardé un peu des habitudes comme ça, mais pour les vêtements, en fait, j'étais pas vraiment arrêtée. Si je trouve seconde main, tant mieux. Après, ça m'empêchait pas quand même d'aller... faire du shopping, mais là, quand même, de plus en plus. Aussi, d'un côté financier, en fait, c'est vrai qu'on économise les vêtements pour enfants, ça coûte très cher. Si on veut bien habiller ses enfants, si on veut du jacadi, du petit bateau, surtout, alors, les acheter à Dubaï, j'en parle même pas, mais déjà, les acheter en France ou dans des outlets, ça coûte vraiment très cher. Quand on a 3 enfants, ça part très, très vite. Du coup, c'est vrai que d'un côté financier, c'est vraiment aussi très, très avantageux d'acheter seconde main. Moi, je vends entre 60 et 80% off du prix neuf dans le pays d'origine. Si j'ai une pièce, par exemple, sergent major, je vais prendre le prix en France, pas le prix de Dubaï. Et je vais retirer 60 à 80% selon l'État. Et après, c'est vrai que je trouve que Dubaï progresse quand même sur ce côté-là. Il y a plusieurs boutiques sur le côté éco-responsable. Il y a plusieurs boutiques en ligne Zero Waste qui ont ouvert. Ils proposent des produits pour tous les jours, des brosses à dents éco-responsables, des cotons-tiges, des petits films pour recouvrir les bocaux, des bouteilles en verre. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on peut installer un filtre sur son... il y a quand même beaucoup d'idées, aussi les culottes pour...
les culottes menstruelles.
Les culottes menstruelles, voilà. Ça, c'est vrai que c'est des concepts qui sont nouveaux. Moi, quand je suis arrivée à Dubaï, il n'y avait rien de tout ça. Ça a surtout deux ans, que ça a commencé. Et je pense qu'on est dans un mouvement qui fait que les gens se tournent beaucoup plus maintenant vers des solutions sustainable. Et la seconde main va avec ça.
Est-ce que tu pourrais me faire part d'un grand défi et d'une grande victoire jusqu'à présent dans ton aventure Yala Kids ?
Alors, le grand défi, je pense que ce serait effectivement de convaincre la population. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui financièrement n'ont pas besoin d'acheter de la seconde main, c'est clair. Mais ils reviennent en fait. Ils sont venus une fois pour voir en me disant « Je viens surtout amener des vêtements, mais je vais regarder ce que tu as. » Voilà. Et au fait, ils sont repartis avec 5 pièces, mais ils s'aperçoivent que c'est des pièces de qualité, que pour aller au parc après l'école ou même le week-end, se balader le week-end ou aller à la plage, ça convient parfaitement. Donc, ils ne vont pas acheter des habits luxueux. Mais ils reviennent en fait. Et c'est ça, ça c'est une grande fierté parce que c'est d'avoir des clients qui se fidélisent et qui, à la base, n'étaient pas plus motivés que ça pour acheter de la seconde main. Et qui me disent « Ah ben non, mais ma fille est super contente de tout ce qu'elle a eu. » C'est vrai que les enfants, eux, ne réalisent pas quand c'est, quand c'est neuf ou pas. Mais c'est d'avoir réussi à toucher des gens qui, à la base, n'étaient pas forcément concernés. Ouais. Voilà. Et la grande fierté, quand même, ça a été d'avoir mon site prêt avec plus de 2000 articles avant le confinement. Ça, je pense que ça a été l'idée de faire mon site et de l'avoir comme je l'ai commencé en septembre l'année dernière, septembre 2019. Et c'est vrai que jusqu'en décembre, ça m'a pris vraiment du temps pour tout mettre en ligne parce que je suis toute seule, je travaille toute seule. Oui, donc pendant l'école, les photos, ou le soir, ou les photos. Alors prendre les photos, modifier les photos, les mettre en ligne, mettre toutes les infos, faire les prix, sélectionner les habits.
Ouais.
C'est vraiment énormément de travail, au fait. C'est la vie d'entrepreneur.
Ouais. Ça n'arrête jamais.
Et ça a été d'avoir mon site prêt, le courrier... tout était mis en place, au fait, le courrier, le paiement par internet, tout était prêt, au fait. Et c'était vraiment un timing qui s'est...
Pour ton site, tu l'as développé sur WordPress ou...
Non, c'est Shopify.
C'est Shopify, ouais.
Shopify, ouais.
D'accord. Et super.
Et c'est une Belge aussi qui m'a aidée à faire le site, elle est vraiment super. Et heureusement qu'elle m'a aidée parce que c'est vrai qu'il y a un moment où j'avais atteint un point où je galérais et je perdais du temps, je perdais de l'argent. Et parce qu'à la base, l'informatique, c'est pas trop mon truc. Donc c'est vrai que là, ça a été vraiment le coup de pouce qui m'a permis d'avoir un super site et facile à naviguer, voilà.
Et il y a la Kids, est-ce que tu souhaites l'étendre à d'autres pays? Parce que pour le moment, c'est accessible à Dubaï.
Oui, c'est aux Émirats.
Aux Émirats.
Donc, tous les Émirats.
Tous les Émirats, d'accord.
Par contre, et on livre en 24 heures, au fait. Donc, quelqu'un commande un matin, le lendemain, c'est livré à Abu Dhabi, par exemple. Donc, ça manque. Par contre, au début, je m'étais dit que ce sera tout le GCC. Mais au fait, les frais de livraison sont trop importants. Je n'ai pas encore étudié la question. Avec les compagnies classiques de courrier, c'est vraiment... au fait, le prix de la livraison, ça va être le prix de la commande. Donc, ça ne vaut pas du tout le coût. Il faudrait que j'étudie la question avec Emirates Post. Mais c'est vrai que je n'ai pas encore trop poussé. Parce que je pense faudrait que je voie les pays où il y a une grosse communauté d'expats. Parce que c'est vrai que les gens du Golfe ne vont pas... probablement pas acheter chez moi.
Et justement, tes projets, là, tes prochains projets à court terme
Donc là, en février, j'ai ouvert un showroom ici.
Ouais.
Donc il faut encore, parce qu'on a déménagé juste avant le confinement, du coup, je n'ai pas encore aménagé la terrasse parce que j'ai une pièce et une terrasse pour y aller à Kids. Donc les gens peuvent venir sur rendez-vous entre 9h et 18h tous les jours, sauf le vendredi, voir les vêtements, essayer les vêtements. Donc ça marche vraiment. Avant le confinement, c'était vraiment le mode de vente qui était le plus important. Et maintenant, ça s'est un peu... c'est passé en ligne vraiment. Et là, maintenant, je suis un peu à 50-50. Donc au showroom, 50% sur les marchés et sur le site. Du coup, il faut déjà que je finisse d'aménager le showroom. Voilà. Avoir des beaux portants. Ouais. Voilà, que les gens puissent venir... me voir. Et bah, dans le futur, pourquoi pas... alors, ouvrir un magasin, c'est pas trop dans l'esprit parce que c'est très, très cher.
Ouais.
Vraiment, il faudrait qu'un autre type de licence. Il faudrait payer le loyer et c'est un peu risqué, je trouve. Donc, avoir un magasin, pour l'instant, non. Mais pourquoi pas, j'avais commencé à chercher éventuellement un warehouse, office, showroom, tu vois, qui puisse me permettre d'embaucher quelqu'un qui soit là à 100% pour mettre les photos en ligne et pouvoir disposer en fait tous mes habits sans avoir à les ranger sur des étagères. Donc avoir tout de sortie au fait pour que les gens puissent venir sans rendez-vous, venir voir, acheter, repartir, déposer les vêtements, Vraiment, voilà. Donc ça, pourquoi pas. Mais ça se fera pas avant 1 ou 2 ans, je pense.
Ouais. D'accord. Super, super projet. J'ai une dernière question avant de passer aux petites questions sur Dubaï. Tu es donc, tu nous le disais, maman de 3 enfants.
Ouais.
Comment tu vis, comment tu as vécu la maternité et comment tu vis aujourd'hui d'élever tes enfants à Dubaï ?
Alors,
bon, toi, c'est un petit peu différent parce que ton mari est émirati.
Voilà.
C'est pas...
Ce qu'on essaye de faire, c'est de les imprégner des deux cultures.
Ouais,
en fait, c'est surtout ça. Après, on parle anglais à la maison. Donc, on parle vraiment tout le temps anglais.
Et... Ah, donc ils n'ont pas le français, tes enfants ?
Si, si. Ah. Quand je suis toute seule avec elles, je parle français. Et elles ont le français. Elles ont des cours de français aussi. Donc, ma grande, elle est en CE1. Après, c'est des cours en dehors de l'école. Donc, on faisait avec l'Alliance française. Ouais. Donc, CE1, grande maternelle, et la petite, pas encore, mais elle parle très bien français. Ouais. Arabe, c'est plus compliqué. Elles comprennent très bien. Après, ma grande, elle a quand même 5 heures d'arabe à l'école, donc elle apprend l'arabe littéral. Donc voilà, le but, nous, en fait, c'est de les imprégner des 3 langues, des 3 cultures, mais c'est vrai qu'elles sont pas mal en anglais. Après, avoir ma fille à Dubaï, c'est vrai qu'au tout début, quand je suis arrivée, ma première fille, j'avais fait des cours avec une sage-femme française qui s'appelait Laure, je pense que tout le monde la connaît, mais elle est partie maintenant. Et c'est vrai que ça m'a énormément aidée, et je pense que ça a aidé beaucoup de Françaises aussi à se sentir vraiment confortable et avoir les clés en main pour commencer sa vie de maman. Après, je pense que c'est quand même différent de la France parce qu'on a des nannies, hein, faut pas se leurrer, mais c'est vrai que ça change la vie d'être aidée à la maison, ce qu'on pourrait pas au fait avoir en France. Et moi, c'est vrai que je sais pas si j'aurais eu 3 enfants en France sans aide, parce que c'est quand même énormément de boulot. S'il fallait que je prenne le bus avec ma poussette dans Paris, comme je voyais toutes les mamans, mes amis monter les escaliers, je pense qu'on a de la chance à Dubaï parce qu'on a une qualité
souvent,
de vie.
Ouais. Mais moi,
comment elles font ?
Ouais,
non,
mais
je pense
aussi,
à mes amis.
Moi, Paris, j'ai toujours adoré cette ville. Et
ouais,
le jour
pareil.
Où j'ai eu ma fille, je me suis dit, mais en fait, c'est inadapté aux enfants, cette ville. C'est
complètement
comme,
inadapté.
Quoi, les escaliers, les métros, enfin, tout, c'est...
Je pense que du coup, c'est plutôt facile d'avoir des enfants ici. Il y a vraiment énormément de magasins pour la petite enfance, d'activités. On peut aller à la plage vraiment après l'école. Ouais. Voilà, c'est des parcs partout, des playgrounds, des communautés quand même très kids-friendly. Je pense qu'on a quand même beaucoup de chance d'élever nos enfants ici. Après, j'ai eu 2 filles très rapprochées, donc un petit peu plus d'un an d'écart. Donc ça, c'est vrai que ça a été assez challenging, mais en fait, je les déposais à la crèche, j'allais au travail, je les reprenais à la crèche. Donc, pas de soucis majeurs de mon côté, mais ouais.
D'accord.
Voilà.
On va finir par des petites questions. Donc justement, on parlait du Kids Friendly. Donc, tes meilleures adresses Kids Friendly à Dubaï ?
Oh. Moi, alors mes filles, elles adorent aller dans les play area, voilà. Donc on évite un peu parce que c'est vrai qu'on veut pas toujours les emmener dans des endroits qui coûtent de l'argent pour essayer de pas leur donner cette mentalité, voilà. Dès qu'on veut faire un hobby, on paye. Nous, c'est vrai qu'on va très souvent à la plage. On va à la plage, au fait, à Secret Beach, qui est à El Sufu, parce que c'est une plage publique, les enfants ne dérangent personne, il n'y a pas de vagues. Important pour les enfants, les enfants qui apprennent à nager. Après, il y a un café confetti à JLT, où ça, c'est super d'aller avec, juste quand on en a marre, aller se poser avec une maman, une amie. Les enfants jouent, en fait. Il y a une aire de jeu pour les enfants. Et c'était juste à côté de la crèche où allaient mes filles. Donc souvent, après la crèche, on se posait au café. Et c'est vrai que ça, c'est sympa. Après, moi, je recommande vraiment une application qui s'appelle Kids. Je t'en parlais tout à l'heure. Q-I-D-Z. Et c'est 5 mamans qui ont lancé cette application parce qu'elles n'arrivaient pas à trouver... elles n'avaient pas de base de données, en fait, disponible à Dubaï pour que faire avec les enfants ce week-end. Et c'est vrai que quand on ouvre cette application, c'est une mine d'informations. Il y a des tickets réduits. On va aller, par exemple, Green Planet, ce qui est vraiment super avec les enfants. Bah, on prend un ticket sur Kids, on y va. C'est vrai que ça donne énormément d'idées, au fait, aussi bien pour les hobbies que... Ouais.
On va noter ça. Tes meilleures adresses Greens à Dubaï ?
Greens Eco.
Ouais.
Alors, il y a le site internet Zero Waste UAE, ouais, qui a été monté par Doua, qui est une Française aussi. Et elle est vraiment hyper calée. Elle propose plein de produits, aussi bien du savon que des cotons-tiges. Elle propose beaucoup de produits pour la maison. Et donc ça, c'est Zero Waste UAE. Et sinon, il y a aussi... comment elle s'appelait déjà ? By Valerian. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est une Belge. Et elle m'a amené des clients, d'ailleurs, toujours dans ce concept. Et elle crée, au fait, des films pour l'alimentaire, des choses comme ça.
Okay.
Des cotons-tiges aussi, je crois. Enfin, plusieurs produits éco-responsables. Donc, ça s'appelle By Valerian. Et je crois qu'elle est sur Instagram. Après, au niveau de la seconde main pour les adultes, moi, j'ai un partenariat, au fait, avec Thrift for Good, qui est un charity shop, mais en partenariat avec Gulf for Good. C'est-à-dire que tous leurs profits sont versés à Gulf for Good, qui est une des associations avec une licence, au fait, à Dubaï, parce qu'on ne peut pas faire de la charité sans licence. Et du coup, ils me confient tous les habits d'enfants que moi, je sélectionne. Ceux qui sont vraiment nickel, je les revends chez Yala Kids. Et après, moi, les vêtements d'adultes que les gens me laissent parce qu'ils ne veulent pas les récupérer et que je ne les prends pas, je leur donne. Donc, on a vraiment un partenariat. Et ça, ils vont ouvrir une boutique le 1er novembre à Galeria Mall à La Palme. Donc ça, c'est les habits ne sont pas chers et sont vraiment en super état. Il y a des pièces à 30 dirhams, 50 dirhams. Voilà, ça s'appelle Thrift for Good.
D'accord.
Et ils ont un site internet. Ouais. Donc ça vaut le coup vraiment de regarder. Bon, il y a un peu à prendre et à laisser, mais ça vaut vraiment le coup. Après, il y a d'autres magasins. Bon, après, je ne connais pas très bien, mais je sais qu'il y a la suite Retold.
Ah oui.
Comment ça s'appelle ? Fashion Rerun. Voilà, il y a d'autres magasins de seconde main. D'accord. Pour les enfants aussi, il y a Pompon Cucu qui fait plus des marques haut de gamme. Voilà. Et voilà. Donc, je pense que le marché de la seconde main, il faut s'entraider, il faut vraiment promouvoir parce qu'on en a besoin à Dubaï, quoi. On en a besoin aux Émirats. Ouais.
Génial. Bah, merci beaucoup pour
de rien.
Toutes ces réponses. Et dernière question, justement, avant de se quitter. Si tu devais recommander quelqu'un pour passer dans le podcast, qui aurait une histoire intéressante à nous raconter.
Alors, moi, je te parlais justement de Cécile, qui a une société qui s'appelle La Bonne Mère. Et qui a le même concept que moi, mais pour les habits de maternité. Voilà, donc là, elle se lance, elle a son showroom chez elle aussi, et c'est des habits qu'on peut acheter seconde main.
Ok.
Et ça, c'est vrai que ça m'aurait bien servi, moi, quand j'ai eu mes enfants, parce que ça n'existait pas, il fallait trouver sur les groupes pareils de Facebook. Donc ça, je te recommande, Cécile. Après, il faudrait peut-être que tu contactes Doua pour le Zero Waste.
Ouais.
Parce qu'elle est vraiment très sympa et elle a une bonne boutique en ligne. Et ce sont des femmes entrepreneurs, voilà.
D'accord.
Et le blog dont je te parlais tout à l'heure, c'est Resist for a Better World.
Ah oui.
Et c'est Olivia qui l'a.
Oui, je la connais.
Ouais. Ok, super. Donc ça, il y a plein de petits tips pour le quotidien, voilà.
D'accord. Super. Merci beaucoup.
Merci à toi.